Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Être médecin et médecin catholique dans un EHPAD en période du coronavirus, c'est le thème cette semaine que je vous propose dans cette série des clés pour vivre. Au micro, je reçois Anne Boyer. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Médecin depuis 7 ans dans un EHPAD, mais médecin depuis 1998,
oui.
Mais vous exercez dans un EHPAD depuis 7 ans et vous venez de vivre un vrai tsunami, un bouleversement aussi dans le cadre aussi de votre métier et puis de toute une équipe, c'est ce coronavirus autour de ces personnes âgées très touchées.
Hein.
Deuxième volet, l'accompagnement. Alors l'accompagnement des personnes âgées dans votre EHPAD non contaminées et celles qui malheureusement vont être contaminées et qui vont décéder du coronavirus. Est-ce que vous pouvez y revenir quelques minutes et relire un peu ce que vous avez vécu en tant que médecin ?
Alors, dans l'accompagnement, effectivement, il y a eu deux volets, parce que les personnes qui n'étaient pas contaminées, effectivement, nous n'avions pas ce souci de... Voilà, on pouvait aller les voir autant qu'on voulait dans les chambres. Donc, l'accompagnement, voilà, moi, j'ai pu aller les voir, prendre un petit temps de prière s'il y avait besoin, en particulier quand... comme ils sont pas tous très pratiquants, en fait, voilà, il y a des périodes où ils sont dans le coma, où je peux aller prier près d'eux, voilà, les confier. Donc ça, c'était plutôt bien. Je me souviens juste d'un épisode un petit peu plus douloureux où effectivement, une de nos personnes âgées qui n'était pas contaminée, était en fin de vie. Et donc, je lui ai proposé que sa fille vienne la voir. Les visites étant... On avait gardé les visites pour les personnes en fin de vie. Donc, je lui propose que sa fille vienne la voir. Je lui explique qu'on dira à sa fille qu'elle mettra un masque, qu'elle sera protégée. Cette dame me dit, ma fille ne viendra pas, elle craint les microbes. Donc, je lui dis, on lui expliquera, vous êtes à un étage qui n'est pas contaminé, vous-même n'êtes pas contaminé, donc nous allons voir. Donc j'appelle sa fille et puis je lui explique, je lui dis voilà, vous avez l'autorisation de venir voir votre maman, on vous indiquera, voilà, vous irez à son étage, etc. S'il y a besoin, vous pouvez mettre un masque et des gants si, pour vous rassurer, mais son étage n'est pas contaminé et vous irez directement à sa chambre. Et cette dame m'a dit « Non, non, je crains les microbes. » Voilà. Et donc, c'était le vendredi. Et le lundi matin, quand je suis revenue au travail, cette dame venait de nous quitter. Et elle n'a pas revu sa fille. J'avoue que cet épisode, ça a été douloureux pour moi. Il y a eu de la colère. Contre sa fille, c'est sûr. Après, effectivement, bon, on m'a expliqué que c'était une femme qui craignait vraiment les microbes à un point vraiment excessif. Voilà. Cette dame, je l'ai confiée effectivement à notre aumônier. Et puis, j'ai pu échanger par la suite avec un prêtre. Parce que cette dame, nous avions eu des échanges sur la foi avec elle. Et elle n'était pas croyante. Elle était même très en colère contre ce Jésus dont je lui parlais. Et je lui avais dit, bon, si vous me permettez, je vais prier pour vous. Elle m'avait dit, bien sûr, vous pouvez prier pour moi. Et voilà, donc on avait échangé. Et puis, elle est tombée malade. Et puis, elle nous a quittés. Et je n'ai pas pu échanger avec elle. Et ça a été, voilà, pour moi, ça a été un peu de frustration parce que nous n'avions pas pu finir cette conversation. Et puis, de me dire où elle allait. Où elle était partie, cette dame qui était en colère contre ce Jésus, qui était...
Elle avait nommé avec vous, permettez-moi, sa colère.
Oui, ouais. Oui. Oui, on en avait parlé.
Et... Donc c'était un début de chemin, malgré tout.
Je l'espère. Et en échangeant avec un prêtre sur cette espérance, notre espérance chrétienne, voilà, c'est vrai qu'il m'a rassurée par rapport à cette dame. Voilà, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe dans les dernières minutes et juste avant la mort, mais en tout cas, voilà, on a pu échanger, elle a pu savoir que je priais pour elle, et puis il y a eu une messe pour elle.
Alors, c'est une personne qui est décédée, mais qui n'est pas décédée suite au Covid-19
du tout. Non, c'était alors, une dame en fin de vie.
Oui, une dame en fin de vie. On peut vous demander à peu près le nombre de décès à ce jour dans votre EHPAD, qui a été, je crois, l'un des EHPAD de la région touchés premier temps.
On a été bien touchés. Nous avons eu 14 décès. 9 décès du coronavirus et donc 5 décès de fin de vie, de personnes, soit de cancer, d'insuffisance cardiaque.
Alors, deuxième point dans cet entretien, dans le cadre de l'accompagnement, c'est l'accompagnement des personnes de votre EHPAD contaminées.
Alors, les personnes effectivement contaminées, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, il fallait s'habiller de façon cosmonaute, comme des cosmonautes, pour être auprès de ces gens-là. Et effectivement, il fallait limiter les passages en chambre pour des raisons de risque de contamination, et puis des choses très pragmatiques comme le matériel, parce qu'il fallait effectivement faire attention au matériel. Et du coup, là, ça a été pour moi très compliqué parce qu'effectivement, ces personnes voyaient l'infirmière et l'aide-soignante pour les soins, voyaient la psychologue. Nous avions gardé le rendez-vous avec la psychologue pour l'accompagnement psychologique, mais effectivement, je les ai très peu vues en fin de vie. Dans les personnes contaminées, certaines sont parties à l'hôpital, donc là, on ne les a même pas vues ni accompagnées. Elles sont parties, et puis l'hôpital nous annonçait au fur et à mesure, on disait telle personne est décédée. Voilà. Parfois, les familles revenaient nous dire, nous remercier ou nous dire que la personne était décédée. Mais pour les personnes qui sont décédées en EHPAD, certains sont décédés tellement vite qu'on n'a même pas pu. Même pas pu les voir venir, ils sont partis comme ça. D'autres sont partis un peu moins rapidement et on a pu faire venir les familles, une personne par une personne, mais quand même, au moins une des personnes de la famille a pu venir auprès de ces personnes âgées. On leur expliquait comment s'habiller, etc., les mesures barrières, les règles d'hygiène, mais elles ont pu quand même venir voir leurs proches. Entre autres, je pense à une qui, effectivement, est même venue deux fois voir sa maman à deux jours d'intervalle avant qu'elle nous quitte. Mais je pense également à une autre dame qui, malheureusement, on lui a dit que son papa n'allait pas bien et elle était en voiture quand il est décédé. Elle est arrivée 15 minutes après. Et ça a été vraiment très douloureux parce qu'elle est arrivée, on lui a annoncé donc qu'il venait de nous quitter. Et elle s'est mise à pleurer, elle était très malheureuse et tout ce qu'on a pu la réconforter, mais on pouvait pas la toucher, on pouvait pas, voilà, comme on fait d'habitude, on met une main sur l'épaule, sur le bras, non, on pouvait pas la toucher, on a juste pu la réconforter par des mots et tout ce qu'on a pu lui dire, c'est voilà, vous pouvez voir votre papa, mais on vous habille de pied en cap comme un cosmonaute et lui, on lui met un masque parce qu'effectivement lui était contaminé, et donc il n'était pas question, même déjà mort, il pouvait encore être contaminant. Donc ça a été il y a eu des choses quand même difficiles, ça a été dur ça. Ce
alors, le décès en lui-même est toujours brutal et douloureux, mais se rajouter aussi les tenues aussi des soignants que l'on ne reconnaît plus.
Oui,
certainement.
Oui.
C'est des chocs aussi psychologiques pour les soignants, alors, qui sont de vrais professionnels et qui vivent eux aussi finalement un état de stress, un état de panique autour d'une mort et d'un non-accompagnement non inachevé.
Oui.
Frustré, on imagine bien.
Oui, la frustration, c'est accompagnement qui n'est pas comme d'habitude. Et puis même pour les personnes âgées, certains avaient des troubles cognitifs et de nous voir habillés avec des masques où il n'y a plus que les regards, ces deux yeux, ces deux billes, on se regarde.
Il n'y a plus de toucher.
Il n'y a plus de toucher, il n'y a plus que ce regard qui passe. Et donc effectivement, des choses passent dans le regard, mais pour des gens qui ont de gros troubles cognitifs, c'est compliqué de ne pas voir le faciès, de ne pas voir le toucher, de ne pas avoir ce discours, de pouvoir leur parler.
Alors, dans de telles périodes, on se soutient en équipe et on soutient son équipe.
Alors,
quelle est la force de l'équipe dans un moment de guerre?
Eh ben dans ces périodes-là, pour ceux qui étaient présents, c'est vrai qu'on était là pour eux, on était là pour pour soutenir ces personnes âgées, voire éventuellement les familles si elles voulaient venir, parce qu'on ne les obligeait pas à venir, bien sûr. Mais en tout cas, on parlait pas beaucoup, on était vraiment dans l'action. Voilà, les seules choses qu'on échangeait, c'était effectivement sur notre fatigue, sur le fait de se sentir épuisé par cette tension nerveuse. Mais après, on était effectivement dans l'efficacité et dans l'action, plutôt que dans l'échange de comme on fait d'habitude, où on peut effectivement, on échange plus sur tout un tas de sujets, mais là, on était vraiment dans l'action et dans le soutien.
Alors, je vous propose, docteur Anne Boyer, de poursuivre ces échanges dans cette série consacrée spécialement à cette épreuve que vous avez traversée, vous, à titre de médecin. Je rappelle, médecin aussi catholique dans un EHPAD, en temps de coronavirus. Il y a, pendant le temps du coronavirus et pendant le confinement, il y a l'après-coronavirus, les déconfinements que nous connaissons, et puis les conséquences, tout ce qu'on ne sait pas. Et que l'on va certainement découvrir au fil du temps et des semaines. On vous dit à demain.
À demain, Nathalie.
Merci.